Raymond Boulanger est un pilote d'aventure, un pilote de brousse, un pilote de toutes sortes d'appareils, qui a fait la manchette à plusieurs reprises. On se souvient, je pense, en tout cas pour les plus vieux, de son arrestation en 92, alors qu'il avait, quoi, 4 tonnes de cocaïne à bord d'un appareil. C'était posé à Casey. Finalement, avait été arrêté, évidemment condamné à la prison. On s'est évadé à 2 reprises. Et là, on apprend qu'on propose sur Crave une série documentaire sur sa vie, le dernier vol de Raymond Boulanger. Il est avec nous ce matin. Monsieur Boulanger, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Comment allez-vous?
Très bien, vous-même. Comment ça va?
Oui, ça va très, très bien. Je me souviens bien de vous. En 2000, vous étiez venu m'interviewer au Leclerc.
Exactement. Oui, quand vous étiez détenu. Monsieur Boulanger, j'ai regardé le premier épisode où on parle de vos débuts dans le monde de l'aviation puis vos premières missions, premières opérations. On comprend d'entrée de jeu que vous, dans la vie, vous ne pouviez pas faire autre chose que piloter des avions.
Ah, c'est à peu près ça, oui. C'est tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, moi. C'est pas mal ça, oui.
À quel moment vous avez basculé de l'autre côté de la clôture entre être un pilote qui gagne, j'allais dire, sa vie de façon honnête puis quelqu'un qui se dit, ben, il y a peut-être de l'argent à faire de l'autre côté?
Oh, ben disons qu'on faisait pour l'aventure, on n'a jamais calculé les affaires pour faire de l'argent. Il y en a qui volaient dans les runs de drogue, oui, les trafiquants puis tout ça. Mais les pilotes, surtout, c'était pas surtout pour l'argent, c'était plus pour l'aventure que d'autres choses. Dans mon cas, en tout cas, ça n'a jamais été pour le gain financier, là. C'est pour l'aventure. Puis c'est pas tout le temps les vols de drogue aussi, là. On fait beaucoup d'autres choses.
Mais en même temps, c'était payant quand même, là.
Ben, c'est certainement plus payant que les vols normaux, si tu as entendu. Ouais.
Et comment on développe, on n'arrive pas comme ça, là, en disant, ben, je peux piloter un avion, puis je peux transporter de la drogue. Comment on établit des liens? Il faut faire confiance? Il faut être recruté? Ça se passe de quelle façon?
Ben, ça dépend dans quelle opération. À l'époque, il y avait beaucoup de trafic de drogue entre les États-Unis, parce que c'était un gros marché. Alors, il y avait beaucoup d'opérateurs indépendants, des pilotes qui descendaient même en Colombie en commençant avec le pote, au Mexique aussi avec le pote, pour rentrer le pote aux États-Unis dans les années 70, là, il n'y en avait pas. Ça a évolué dans le milieu des années 80 à la cocaïne, parce que là, c'est la cocaïne qui est devenue populaire, grâce à M. Escobar et compagnie. Ils ont monté la production quasiment industrielle de la cocaïne. Alors, la distribution a commencé là. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui se sont impliqués avec toutes sortes d'avions, petits et gros et tout, là, dans le trafic de la drogue. C'était un gros marché. Puis ça l'est encore, d'ailleurs. Là. Ça n'a pas changé beaucoup. Là.
OK, mais selon, je dirais, votre expérience, là, la drogue entre de quelle façon? Y a-t-il encore des avions qu'on bourre de 4 tonnes de cocaïne puis qu'on tente de faire entrer ici?
Non, pas ici au Canada. Il n'y a pas de marché, puis il n'y a personne qui est vraiment intéressé à venir au Canada. Mais le marché est plutôt américain. C'est les Mexicains qui contrôlent ça de plus en plus. Les Mexicains qui achètent les Colombiens. Alors, ils ont toute la frontière du Mexique. C'est eux autres qui détiennent pas mal toute la distribution pour l'Amérique du Nord dans le moment. Là. Les Colombiens ne sont pas vraiment intéressés. Ils sont plutôt en Europe, puis en Asie, puis la Russie. Puis la business, ça va très, très bien là-bas. Ça n'a pas diminué, pas du tout.
Avez-vous gardé des contacts dans ce milieu-là?
Ben, je reste où qu'on a des contacts quand ils ne sont pas morts. Là. De là, oui. Garder des contacts. Non, j'ai des amis qui sont retraités comme moi. Là. Alors, oui, je reste avec des contacts.
OK. Vous dites dans le documentaire que ce que les autres pensent de vous, de ce que vous avez fait, vous vous en foutez complètement.
Exactement. Je m'en fous carrément.
J'aimerais ça que vous entendre un peu plus. Pourquoi vous vous en foutez? Pourquoi c'est pas important pour vous?
Ben non, l'opinion, ça m'intéresse pas l'opinion des autres, ce que les autres pensent sur leur politique. Puis je vois la façon que la politique se promène, la façon que les municipalités, les pays, etc., qui sont gouvernés par des cons. Vraiment, c'est débile. Puis les guerres incessantes, les réfugiés partout, hors de contrôle. C'est complètement ridicule. Alors, la fonction publique ne fonctionne plus. Les gouvernements, ça ne fonctionne plus. Le monde, ils ne sont même pas capables de contrôler les maladies. Regardez ce qui se passe là, depuis le COVID. Là, c'est complètement débile. Là. Le monde entier, tout renversé par un petit microbe. Franchement, là, le système, il ne fonctionne pas. Puis on a juste à s'ouvrir les yeux et les oreilles pour avoir les preuves. On le voit devant nous.
OK, mais vous dites aussi dans le documentaire, on laissait faire la COVID, là, mais pour ce qui est du documentaire, vous dites que finalement, c'est comment je dirais ça? Un, c'est plus payant faire affaire avec les Colombiens que de faire affaire, par exemple, avec la CIA.
Oui, c'est sûr. T'as entendu, les Colombiens, ben, ils payent beaucoup plus. La CIA, ben, ils sont plutôt dans le genre de les pay scale là, de la fonction publique, là, great pay, dépendant du grade, puis dépendant des normes de service, dépendant du contrat. C'est tout différent. Les contrats sont négociables. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus payant pour les cartels.
Vous avez travaillé comme pilote, donc, à plusieurs endroits, on pense, là, on parle beaucoup de la Colombie, mais je pense aussi, mm-hmm. puis on le voit dans le documentaire, dans le sud-est asiatique, le Vietnam, on est dans les années 60. Oui, c'est ça, quand ça arrive dans les années 70.
Mais pas longtemps. J'ai fait des contrats qui ont duré off and on, environ une totalité de 8 mois dans cette opération-là, parce que c'était une opération d'évacuation urgente, là. Le personnel qui était caché dans les montagnes, là, qui les postes avancés. Là. Alors, quand cette opération a été terminée, ben là, ça a été fini. Après ça, je suis revenu dans les opérations pour l'Amérique latine puis l'Amérique du Sud.
Il y a quelqu'un qui m'a posé une question en voyant ça, puis qui me dit, coudonc, il dit, Raymond Boulanger, il a tout vécu, il a travaillé pour tout le monde, des deux côtés de la clôture. Il dit, est-ce que c'est le capitaine Bonhomme qui nous raconte ses aventures? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est qui d'abord, capitaine Bonhomme?
Ben, le capitaine Bonhomme, c'est quelqu'un qui racontait des aventures, puis des fois qui exagérait, puis qui en mettait, puis que...
Non, c'est pas tout à fait ça, là. C'est plutôt le contraire.
C'est-à-dire?
On raconte pas le trois quarts de ce qui se passe. Vraiment, là, il y en a vraiment. C'est pas racontable au public.
Vous avez pas encore tout raconté, vous?
Non, loin de là. On le racontera pas tout non plus. Disons qu'il y a des choses qui ont pas... C'est mieux de... La vie, surtout du côté violence là, pour les cartels, puis surtout pour les insurgences aussi. Là.
Vous avez vu des choses que vous n'avez pas envie de raconter.
Exactement.
Il vous reste-tu de l'argent de cette époque-là? On a toujours l'impression que c'est hyper payant puis qu'on s'en met de côté pour les vieux jours. C'est le cas ou pas?
Oh oui. J'ai gardé mon premier 1000 piastres que j'ai fait. C'est encadré. Non, ça, c'est pas un problème. J'ai placé ça en fondation, pas en trust, là, puis j'en ai pas besoin. Puis il y avait tellement d'argent qu'on faisait là, c'était vrai. C'était pas une nécessité. C'était mieux pour le bien des autres, puis on a placé ça dans les fondations. Moi, puis plusieurs autres pilotes, je suis pas le seul à avoir fait ça. Il y en a beaucoup qui ont placé ça en fond. Là. Ils se sont bâtis les maisons, sont installés dans les pays comme Costa Rica, Panama, là, à l'oreille, là, sur le bord de la plage, avec toutes les bébelles, là, les windsurfers et tout ça. Ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup d'argent.
Là, vous avez fait quoi, 20 ans de prison?
Oui, j'ai fait une sentence de 23, mais j'en ai fait 18 en dedans, puis le reste en liberté conditionnelle.
Et vous êtes évadé deux fois?
Ben, la première fois, c'était un bris de condition. La deuxième fois, c'était une évasion de garde légale. Fait que c'est pas exactement qualifié comme un jailbreak, là. C'est comme plutôt des technicalités, mais néanmoins que la première fois, j'étais en liberté illégale, puis la deuxième fois, j'étais en évasion parce que j'étais parti d'une garde légale. Alors, ils m'ont rajouté 4 mois et 2 jours par-dessus ma sentence consécutive à 23 ans pour celle-là.
Et là, vous souffrez d'un cancer?
Je ne me souffre pas tellement. J'ai un cancer de sang, un Waldenström, un lymphome, là. Mais c'est traitable. J'ai fait la chimio pendant plusieurs années, puis c'était plus capable. Mais depuis 3 ans, je suis sur un genre de médicament qui bloque ça. Là. C'est très contrôlé. Je vais à l'hôpital à chaque mois. Je vérifie. On me donne des intraveineux avec l'immunoglobine humain. Justement, j'en ai fait un hier. Et puis, ça renforce mon système immunitaire. Fait que je suis bon pour un bon bout encore.
Mais vous le dites un peu dans le documentaire, vous savez que des gars comme vous qui ont vécu ces années-là, là, puis ça fascine les gens. Les gens ont un intérêt. C'est une vie hors de l'ordinaire que vous avez eue, là.
Oui, ben, je commence à me rendre compte pas mal de ça, mais dans les autres, on se trouvait pas mal ordinaire. Là, on était plusieurs à faire le genre de métier, mais quand on le fait, on pense pas quelle perception que les autres pourraient avoir. Premièrement, c'est clandestin, alors c'est pas annoncé. La majorité des opérations qu'on participe, c'est pas annoncé au public. Puis quand ça va mal, c'est là que ça devient matière publique, quand c'est exposé, comme l'affaire des grands contrats. Mais normalement, il y a plein d'opérations comme ça qui à tous les jours, puis on n'entend plus jamais parler, on n'entend pas parler, justement parce qu'ils sont clandestins. Et quand il arrive quelque chose comme l'avion qui a été abattu, comme dans le film American Made, là, c'est vrai, ça, c'est ce qui s'est passé, là, l'avion a été abattu. Et puis c'est là que le complot s'est découvert, alors à la lumière du jour, la CIA se sont fait exposer comme des trafiquants de drogue.
Dernière question, c'est quand même pas rien, là, 4 tonnes de cocaïne dans un avion. Quand la police vous arrête à Casey après toute cette aventure-là, là, c'est quand même une perte pour le cartel. Y a-t-il un prix à payer pour ça, pour s'être fait arrêter et avoir donc vu le matériel saisi?
Ah, pas pour moi, non. Mais pour les personnes qui étaient à charge de recevoir tout ça, là, c'est les autres responsables. Moi, mon équipage, notre travail est complété, là. Les autres, on est contractés pour livrer la marchandise de point A à point B. Puis quand on est arrivé à Casey, bien, effectivement, notre travail était fini. Nous. Alors, la récupération devient leur problème. Alors, c'est eux qui étaient dans la merde. C'est eux autres qui étaient dans le problème. Oui.
Savez-vous comment ça s'est réglé? Y a-tu...
Disons que ça a brossé pas mal pendant quelques années, là, mais ça s'est réglé finalement, mais... Il a coulé pas mal de sang.
OK. Monsieur Boulanger, merci d'avoir pris le temps ce matin.
Monsieur Arcand, au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup. Raymond Bélanger. Je suis allé l'interviewer à l'époque, il était détenu et purgeait sa sentence, donc, après cette histoire. Et il s'est présenté sur Crave, donc, dès demain, mercredi 19 août. Je vais vous parler du sujet de tribune téléphonique tout de suite. On va prendre des appels ce matin. Là, on a eu le plan sanitaire pour l'école. Puis on a eu le plan éducatif. Alors, ce sont des plans. Il faut les exécuter maintenant, puis voir comment ça va se passer. Il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant aille à l'école. Il y a des parents qui vont faire de l'enseignement maison. D'autres qui veulent avoir une forme d'enseignement virtuel. Mais c'est obligatoire, contrairement à d'autres provinces où le choix est là. Alors, ma question ce matin, les parents, les profs, là, êtes-vous prêts pour la rentrée scolaire de vos enfants? Les profs, là, je comprends, il y a peut-être des ajustements, là, mais mettons qu'on se dit, il faut commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Puis est-ce que vous êtes comme parents, vous dites, c'est la meilleure chose à faire actuellement, même s'il y a des problèmes puis certaines inquiétudes, puis il y en aura toujours, là. C'est correct que mon enfant retourne à l'école, que ce soit primaire, secondaire, principalement. Alors, 514-790-9850, 514-790-9850. Est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée scolaire de vos enfants? Ou comme prof, êtes-vous prêt à accueillir nos enfants dans votre classe?